Il n'y a pas plus de gens généralement dans la salle qui assistent à ces débats. Et quand on augmente les impôts ou qu'on les baisse, il y a très peu de mobilisation citoyenne. Et ça m'interpelle, ça m'interroge. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement intéresser les gens. Est-ce qu'il faut mettre de nouveau des webcams? Il y a des projets comme ça, hein. Il y a des parlements qui ont des webcams et qui permettent aussi d'être un peu plus à contrôler ces élus. Et enfin, dernière chose, la consultation populaire qui existe dans notre arsenal de participation citoyenne, voilà, mais qui est très très peu utilisé. Donc, je m'interroge aussi sur l'explosion d'une volonté de participation citoyenne, mais en même temps, on n'utilise pas les outils qui existent déjà. Le politique en a un petit peu peur, et en même temps, par exemple, la Suisse a une culture du consensus, même au niveau du gouvernement, puisque les partis, il n'y a pas de parti de majorité d'opposition, les partis sont associés au pouvoir, mais simplement à due proportion de leur poids électoral. Et la culture de la votation populaire, avec la possibilité pour les citoyens de présenter, avec X signatures, une proposition qui est soumise au vote. Il y a eu notamment tout le débat sur la fiscalité les résidences secondaires, qui a été amené par des citoyens, finalement, et qui a obligé le politique à organiser ces votations. Voilà, je vous remercie.
Merci, monsieur.
Monsieur.
Oui, bonjour, je suis Alain Marron, je suis député pour le groupe Écolo depuis 2009. Je voudrais d'abord excuser mes petits collègues écologistes parce qu'on avait une réunion de groupe, figurez-vous, ce matin, ce qui a expliqué aussi notre retard, le fait qu'on n'ait pas pu entendre tous les intervenants. Alors moi, je voulais juste dire quelques petites choses. D'abord sur la particratie. En fait, en Belgique, non seulement il y a une forte particratie, mais en fait, il y a aussi une piliarisation de la société. Avec syndicats, mutuelles, l'enseignement libre est défendu par certains partis et pas par d'autres, l'enseignement public par certains. Donc on a une particratie forte et en plus une piliarisation. Et sans doute que cette piliarisation a aidé au 19e et au 20e siècle. Il y a eu des avancées sociales fortes au bénéfice des gens et de la collectivité. Mais peut-être que ça ne correspond plus tout à fait aux enjeux déjà de la fin du 20e siècle et a fortiori de ceux du 21e. Sur la particratie, ce qui fait qu'en Belgique, elle est d'autant plus forte, je pense, c'est quand même la complexité. C'est super compliqué, la Belgique. Regardez ici à Bruxelles, il y a six partis dans la majorité, trois francophones et trois néerlandophones, qui ont dû se mettre d'accord. Et en plus, les partis francophones et les néerlandophones ne sont pas en miroir. Donc les socialistes francophones sont dans la majorité. Et les socialistes néerlandophones sont dans l'opposition. Et les libéraux néerlandophones sont dans la majorité, et les libéraux francophones sont dans l'opposition. Tout ça dans un seul et même gouvernement et une majorité qui est ici la même aussi, évidemment, au niveau du Parlement. Et donc, ça rigidifie, quoi. Ça oblige un petit peu, vu que les accords sont difficiles à obtenir, à les rigidifier. Néanmoins, je ne vous cache pas que c'est extrêmement frustrant comme parlementaire. Parce qu'on est tenu à des règles, à mon estime, trop strictes de majorité, et on manque de liberté pour faire avancer les textes, pour parfois construire des majorités alternatives ou des choses comme ça, ce qui est possible ailleurs. Quand on regarde les débats à l'Assemblée en France, on se rend compte qu'en fait, régulièrement, des amendements de l'opposition rentrent dans des textes de la majorité, des choses comme ça. C'est beaucoup plus difficile ici et beaucoup plus compliqué ici. Mais c'est aussi dû à la complexité de la Belgique. Mais moi, je me souviens d'avoir vu, il y a un site internet en fait très bien fait en logiciel libre qui suit le parcours des textes à l'Assemblée française pour voir un peu qui a amendé quoi comment. Et on voit qu'en fait, sur un seul et même texte, les différents groupes, si on parle de gros textes, hein, amendent dans tous les sens. Il y a en tout cas un travail qui m'a semblé beaucoup plus ouvert que ce qui était possible. Sans vouloir sacraliser la démocratie française, hein, ce qui est possible ici en Belgique. Et donc de l'extérieur, ça semble complètement bloqué, mais de l'intérieur, ça semble aussi un peu trop bloqué, en tout cas de mon point de vue. Moi, je suis très pour le fait qu'on ouvre un petit peu les fenêtres et qu'on rende possible plus de choses. Alors les lobbies. Mais en fait, je vais vous dire, heureusement qu'il y a des lobbies. En tout cas, moi, je ne vais pas vous parler des lobbies. Au niveau du Parlement européen, avec sans doute un certain nombre d'effets pervers. Mais les lobbies ici, dans un Parlement comme celui-ci, c'est quoi, la plupart du temps? Ce sont des confédérations qui sont liées à du non-marchand ou de l'associatif, ou à des pouvoirs économiques. mais ce sont des associations, des groupes de pression divers, etc. Et très franchement, ils apportent de l'air bien souvent. Le pouvoir de l'associatif, souvent, c'est d'être novateur, d'amener des idées auxquelles nous n'avons pas nécessairement pensé, de venir les déposer et de faire du lobbying sur nous, dire « mais vous devez arriver à ça, vous devez le faire ». Et moi, de temps en temps, je les écoute. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qui vient, mais évidemment, c'est important d'avoir ce travail de lobby qui s'exerce sur les parlementaires, parce que ça peut aussi offrir de l'air, et c'est une certaine forme de participation, à mesure où souvent ces lobbies, mais derrière sont les individus, et ils sont connectés sur des ancrages de terrain. Et donc, voilà. Alors là où c'est problématique, c'est vrai, c'est quand on en arrive à de l'opacité, à des conflits d'intérêts, ou à de la corruption. Donc, vous allez faire passer tel amendement sur tel... Voilà, ça, on voit ça de temps en temps au niveau européen, où on se dit, tiens, Madame Untel a déposé tel amendement en faveur de, je ne sais pas moi, les entreprises gazières ou du tabac, et on se rend compte qu'en fait, sa société de consultance a des accords avec... Là, évidemment, on est parti sur des choses qui ne vont pas, mais qui relèvent quelque part de la corruption. Mais quand on est en dehors de cette zone grise-là, les lobbies, c'est aussi quelque chose de positif. Alors, en tant que parlementaire, on a aussi, nous, des obligations de rendre des comptes, des obligations de répondre aux questions, des obligations, si les citoyens nous contactent, mais d'admettre ce contact, d'admettre leurs critiques, de toujours accepter le débat, de répondre, etc., etc. Mais je dois vous dire que peu de citoyens le font. Pourtant, vous tapez dans Google le nom de pratiquement n'importe quel d'entre nous, vous avez le mail, le GSM, la page Facebook, le compte Twitter, enfin, tout est là, quoi. Moi, si vous tapez mon nom, mais c'est le vrai pour la plupart d'entre nous, vous avez le numéro de GSM, ça, et si vous appelez, il sonne ici, quoi. Je veux dire, c'est facile, parce qu'on est des élus relativement proches de la population, mais très peu de citoyens le font, voire même très peu d'associations le font, osent le faire, prendre des contacts directs, etc., etc. Mais nous avons évidemment l'obligation de l'encourager, d'être accessible, disponible, de répondre, etc. Et nous, élus, avons évidemment un effort à faire à ce niveau-là, c'est indispensable. Et je voudrais encore dire sur le fait que il faut revivifier le système démocratique et faire confiance aux citoyens. Ça, moi, j'en suis convaincu. Et chez Écolo, c'est un peu dans nos gènes, puisqu'on est issus nous-mêmes du monde associatif, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a absolument aucune raison que si des citoyens réfléchissent sur un sujet, ils ne produisent pas, et si c'est dans de bonnes conditions, de manière encadrée, qu'ils ont accès à l'expertise, ils ne produisent pas des propositions qui soient au moins aussi bonnes que celles du politique. Il n'y a pas de raison, en fait. Nous, les politiques, on est avant tout des citoyens, on n'a pas la science infuse, etc. Et donc, si, effectivement, des citoyens sont rassemblés dans de bonnes conditions, avec des objectifs clairs, etc., bien sûr, ils fourniront des propositions qui seront intéressantes. Alors, on pourra être d'accord ou pas sur le fond, mais en tout cas, qui seront dignes d'intérêt et dignes de débat. Et sans doute, faut-il encourager plus ce genre d'expérience.
Merci. On arrive tout doucement à la fin de cette séance. Je proposerai de la clôturer avec nos deux intervenants, sauf s'il y a une question imminente de quelqu'un. Madame.
Bonjour. Merci. Fanny Terrifay, je suis aussi de l'association Periferia. Mais je ne tiendrai pas les mêmes propos que mon collègue, ce qui ne veut pas dire que je suis opposée. Juste peut-être pour réatterrir un tout petit peu, parce qu'évidemment la question me démangeait un peu dans les débats qu'on a ici. Je pense qu'il y a un point qui a été soulevé dans l'exposé de M. Blondeau et qui s'est retrouvé à plusieurs niveaux dans les échanges qu'on a eus, c'est le fait qu'il y a de plus en plus d'injonctions légales dans différents programmes, notamment les programmes qui touchent à l'urbanisme, à la rénovation urbaine, de faire de la participation et très peu d'injonctions sur comment le faire. Et je pense que vraiment là, on touche un point qui est très très sensible et qui va permettre ou pas d'avancer sur les débats de la participation, qui est à un moment, si on oblige des élus qui ne sont déjà pas très preneurs de ce genre d'exercice parce qu'il y a vraiment des craintes et des risques qui sont là, qui sont avérés, à en faire sans leur donner les outils pour le faire et Si on, en plus, on maintient en Belgique notre tendance à jouer les modestes et à toujours croire que ce qui se fait à Porto Alegre en Afrique et en Chine sont vraiment super, mais que ce qu'on fait chez nous, bah, finalement, ça ne vaut pas vraiment la peine. On n'en parle pas assez, je pense. Donc, j'aurais envie de dire, est-ce qu'un des premiers pas à faire, ce ne serait pas justement d'aller dans le sens de cette éducation à la participation qui se fasse prioritairement au niveau des politiques, parce que je pense qu'on peut booster les citoyens de manière très forte à faire la participation. Si les politiques ne sont pas preneurs, on va toujours se confronter à un mur qui sera soit un désenchantement de la participation, soit des formes qui vont rester dans du contre-pouvoir, dans de l'opposition, dans de la confrontation. Et donc vraiment d'aller vers l'éducation, la participation des élus politiques qui pourraient évidemment passer par les instances dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, qui sont celles qui, à un moment, peuvent inscrire ces injonctions dans la loi, mais qui pourraient aussi passer par beaucoup plus de visibilité de ce qui se passe sur le terrain, beaucoup plus de bilan des processus qui sont menés. Je pense que si aujourd'hui, on a envie de mener une évaluation transversale de choses qui sont nécessaires pour faire la participation et bien la faire en Belgique, on a les ressources nécessaires qui sont là. Donc peut-être aller prioritairement vers cette voie-là qui est peut-être plus concrète et plus timide que ce qu'on a évoqué dans les débats aujourd'hui, mais je pense qu'elle peut vraiment donner des perspectives sur lesquelles on peut rebondir après un peu plus facilement.
Merci, madame. Pour ne pas empiéter sur la pause repas, je propose de rendre une dernière fois la parole à Luc Blondiau et David Ferl. Luc Blondiau, si vous voulez reprendre la parole.
Oui, il y a eu plusieurs questions, plusieurs interpellations, donc je vais essayer d'y répondre. Sur les lobbyistes, évidemment, la société n'est pas aussi simple que vous l'avez décrit. J'ai essayé d'insister sur les différents niveaux d'engagement des citoyens et les niveaux d'influence aussi des citoyens qui ne sont pas les mêmes. Moi, je reste persuadé que les dispositifs participatifs ou certains de ces dispositifs participatifs permettent aussi de mettre à l'épreuve et de tester la légitimité de ces intermédiaires citoyens. C'est-à-dire que eux aussi sont forcés de justifier leur rôle dans l'action publique. Et ça peut être pour le meilleur, me semble-t-il, pour le meilleur et pour le pire, mais le plus souvent pour le meilleur. Et si, dans le cadre d'un débat public, de ceux qui se réclament de la société civile, ceux qui se prétendent les porte-parole de la société civile, démontrent qu'en fait ils ne le sont pas, ça me paraît être quelque chose d'assez vertueux d'un point de vue démocratique. Et donc c'est vrai, et d'autres points, les acteurs politiques, les gouvernants ont leurs interlocuteurs. Ils ont leurs interlocuteurs très clairement, ils choisissent leurs interlocuteurs. La mise en place de forums plus ouvert, plus inclusif des différents points de vue, permet de redistribuer les cartes, permet aussi d'établir une certaine forme de transparence dans ces systèmes de relations et d'échanges croisés entre les gouvernants, ceux qui sont au pouvoir, et entre une majorité et ceux qui les soutiennent dans la population. Donc pour moi, c'est vertueux. La professionnalisation de la politique, ça fait partie de la réforme de la démocratie institutionnelle que je réclame de mes voeux. Je suis aussi partisan de la fin du cumul des mandats et pour moi, tout cela fait système. Et ce qui me frappe quand même, c'est qu'avec des systèmes politiques aussi différents que le français et le belge, finalement, le constat est le même. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une confiscation du pouvoir par une fraction de la population. Je pense que la cartélisation, on ne parle pas de particratie en France, mais l'état de cartélisation de la politique, l'état de professionnalisation de la politique, le fait qu'aujourd'hui, la plupart des élus ont été d'abord collaborateurs d'élus et qu'on assiste à une carrière politique qui est clairement balisée et clairement suivie contribue à un éloignement très fort des citoyens à l'égard de la sphère politique. On ne va pas se cacher derrière ça. Et je ne crois pas non plus que ce sera la désignation de people ou de citoyen candidat qui changera quoi que ce soit. Hein. Là, on est dans l'écume. Mais c'est très intéressant que de voir que vous êtes censé avoir répondre, le système politique est censé répondre à des logiques de coopération ici, de recherche du consensus. Chez nous, plutôt, on est dans une démocratie majoritaire qui recherche le conflit, mais au final, quel que soit le système politique, le constat est le même au regard de l'absence de possibilité pour les citoyens de peser de l'extérieur sur un système qui a de plus en plus tendance à se clôturer. Vote obligatoire. Moi, je suis farouchement pour le vote obligatoire. Et je sais qu'en Belgique, je surprends. Hein. S'il y avait une ligue pour le vote obligatoire en France, j'en ferais partie. Parce que l'une des tendances majeures de nos démocraties et de nos systèmes politiques, c'est la désaffiliation politique et la non-prise en compte, ça a été dit à plusieurs reprises, des catégories populaires. Et que tout conduit à transformer nos démocraties en oligarchie et à une forme de gouvernement des riches. Alors les États-Unis offrent une sorte de point limite. Et moi, je me dis, me suis toujours fait l'association d'idées. En Belgique, l'État social se maintient parce qu'il y a le vote obligatoire, parce que les catégories populaires pèsent encore dans les urnes. Dans un pays comme la France, elles ne vont plus voter, les catégories populaires. Elles vont de temps en temps voter au second tour de l'élection présidentielle. Mais pour combien de temps encore ? À toutes les autres élections, elles ont disparu. Pourquoi voulez-vous que les politiques les prennent encore en compte si elles ne vont plus voter ? Et qu'est-ce que prennent en compte les politiques ? Prennent en compte la voix de ceux qui vont voter, c'est-à-dire des... Alors je pense que le problème des jeunes est à peu près de la même nature que celui des catégories populaires. Ce sont aujourd'hui les retraités qui font la politique dans nos démocraties, parce que les retraités vont voter, parce que les retraités sont en position de peser sur le vote. Ce que les jeunes ne sont plus du tout en position de faire, ce qui fait qu'ils sont sacrifiés systématiquement dans les arbitrages de l'action publique. Quatrième point, moi je crois beaucoup à l'articulation entre démocratie directe et démocratie participative. Le cas de l'Assemblée de Colombie-Britannique, citoyen de Colombie-Britannique, qu'a évoqué David Farrell, qui intéresse beaucoup les chercheurs qui travaillent sur ces questions, est symptomatique de l'intérêt d'articuler l'un et l'autre, et de terminer un processus de démocratie participative par un référendum. Pour moi, c'est quelque chose de tout à fait important. Il y a une situation inverse qui s'est faite, une articulation qui s'est faite dans l'État de l'Oregon aux États-Unis. Ça s'appelle l'Oregon Citizens Review. Avant un référendum, on met en place des forums participatifs où des citoyens ordinaires, tirés au sort, évaluent les différentes options sur le référendum de façon à nourrir l'information et le choix, le jugement de l'ensemble des citoyens. Pour moi, ça me semble extrêmement vertueux. C'est une organisation non gouvernementale qui organise cette évaluation pré-référendaire, et pour moi c'est quelque chose de très utile. On peut imaginer ça en France. L'intérêt général, je n'utilise pas ce terme, en tout cas dans le contexte français, de manière très claire, parce qu'il a été dévoyé. L'intérêt général en France a toujours été la prérogative de l'État. C'est l'État en France qui définit l'intérêt général. L'État parce que c'est l'État. Et l'État, bon, voilà. Or, je crois, et je suis dans une position philosophique beaucoup plus proche de celle des anglo-saxons, en disant l'intérêt général, il se construit. Il est issu d'un processus de composition, de construction entre des définitions différentes de l'intérêt général. En France, l'intérêt général, c'est une sorte d'arme symbolique massive qui visait à faire taire les autres qui étaient considérés comme défendant des intérêts particuliers. Mais quand on voyait la manière dont l'intérêt général était construit, quelquefois c'était pour le meilleur et d'autres fois c'était pour masquer des intérêts particuliers qui se cachaient derrière l'intérêt général. Donc moi, la démocratie participative permet une construction pluraliste de l'intérêt général, et l'intérêt général, je l'ai toujours en tête. L'inclusion. Vous êtes très sensible à l'inclusion, et j'ai remarqué aussi qu'en Belgique, vous étiez sensible à cette question de la participation politique des pauvres, beaucoup plus qu'en France, me semble-t-il. Différentes expériences ont montré que ça a été absolument pas impossible de les inclure. Les jurys citoyens, malgré tous les défauts que je peux leur trouver, et j'y reviendrai, les jurys citoyens démontrent, et David Farrell l'a montré, qu'on peut remettre artificiellement à égalité tous les citoyens, pas les 20% d'apathiques. Dans toute démocratie, il y a 15 à 20%, je vais peut-être faire hurler, mais qui sont irréductiblement, me semble-t-il, qui sont beaucoup trop éloignés des affaires publiques, beaucoup trop désintéressés des affaires publiques, pour pouvoir, y compris dans des expériences de jury citoyen, où on a quand même des citoyens ordinaires, d'origine populaire, etc., mais qui sont relativement choisis, qui sont relativement intéressés, même s'ils ont été tirés au sort. Quand on est tiré au sort, on a le choix aussi de refuser de faire partie. Et donc, on a évidemment une grande diversification sociologique de ceux qui ont le droit de prendre la parole, mais on n'a pas, me semble-t-il, et on n'aura jamais ceux qui sont vraiment trop loin. Je l'ai vu dans une expérience toujours à Bordeaux, avec lesquels je travaille pas mal, on avait tiré au sort parmi des panélistes commerciaux, c'est-à-dire des gens qui testent des produits, des yaourts pour les études de marché. Bon, des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par la politique et qui venaient uniquement pour l'argent. Qui venaient parce qu'ils étaient rétribués, voilà, ils venaient pour gagner du fric, 250 € sur un week-end, c'était quand même intéressant. Ces gens-là, honnêtement, on n'a pas pu les intéresser, hein, parce que ils n'avaient pas le minimum d'appétence politique pour être intéressés. Donc je ne crois pas qu'on puisse transformer totalement les individus, y compris par des processus vertueux, mais on peut le faire. Il y a des méthodes de discussion, les petits groupes, des formes d'animation, de modération. On peut même le faire avec des déficients mentaux. Le Conseil général du Val-de-Marne, avec qui je travaille aussi, a mené une opération soutenue par l'Union européenne pour associer des handicapés mentaux à la gestion de leurs services qui sont gérés par les conseils généraux. Ça a marché, ils l'ont fait, donc on peut faire avec tout le monde, mais bon, sous des formes un petit peu simplifiées. Les jurys citoyens, je suis très critique à l'égard des mini-publics, de ce qu'on appelle les mini-publics dans notre jargon. Très très critique parce qu'effectivement on érige des super citoyens, conditionne finalement le fait d'avoir une information, d'avoir pu discuter sur le fait d'avoir une information, d'avoir pu discuter pour produire un avis légitime. Or en démocratie, a priori, il ne doit pas y avoir de super citoyens. Il ne doit pas y avoir de super citoyens. Et donc, il y a un risque derrière le mini-public. Il y a des avantages très forts, mais il y a aussi un risque. Ce sont des dispositifs extrêmement artificiels qui doivent être impérativement ouverts à l'observation. Moi, j'ai vu beaucoup de jurys citoyens, j'en ai observé, évalué. On peut faire n'importe quoi, on peut faire dire n'importe quoi à des citoyens si on est malhonnête intellectuellement et si on n'a pas une éthique de la délibération ou de la participation. Donc, faisons attention. Et puis, les jurys de citoyens, sauf forte médiatisation, on reviendra sur les journalistes. Les journalistes, ils font partie des élites. Ils pensent que les citoyens sont pas suffisamment compétents en général pour donc ils sont réticents à l'égard de ce type de dispositif. Mais sauf cas de forte médiatisation ou cas d'articulation claire entre le jury de citoyens et un référendum, les jurys de citoyens sont des instruments dont il faut se méfier vraiment, me semble-t-il. Pourquoi les citoyens ne participent pas à ces dispositifs autant qu'on le voudrait, y compris quand ils sont très ouverts. Alors, deux modalités de réponse. Soit on considère que s'ils ne veulent pas, ils sont pas à la hauteur, ils n'y arriveront jamais, et on reconduit un stéréotype de la philosophie politique et de la vision élitiste du politique qui existe depuis Athènes, hein. À Athènes, les philosophes étaient contre, à quelques exceptions près, la démocratie, ils trouvaient que les citoyens seraient jamais à la hauteur. Soit on dit, et c'est ma position, que s'ils ne viennent pas, c'est qu'il n'y a rien à gagner pour eux dans ces affaires. C'est-à-dire qu'ils viendront quand il y aura quelque chose vraiment à débattre et un enjeu à la participation. Pour des gens pour qui les coûts de mobilisation sont plus élevés que pour un retraité diplômé de l'enseignement supérieur qui s'intéresse depuis longtemps à la politique. Il faut que ça vaille le coup de se déplacer. Il faut que ça vaille le coup de prendre le risque de parler en public. Et ils s'aperçoivent assez vite que ça ne vaut pas le coup. Et le contre-exemple majeur, c'est le budget participatif de Porto Alegre, où à Porto Alegre, on discutait vraiment de choix politiques majeurs, de la création d'un hôpital, du tout à l'égout, etc., etc. Et les citoyens des quartiers populaires se déplaçaient en masse parce qu'il y avait un enjeu. Tant qu'on discutera du sexe des anges dans les débats participatifs, il n'y a aucune raison pour que les citoyens les plus éloignés de la sphère publique se mobilisent. Donc moi, c'est ma réponse. On n'est pas allé assez loin dans la démocratie participative pour démontrer que ça n'intéresse pas les citoyens. Voilà.
Merci beaucoup. And I would suggest to give the last few words to David Ferl.
I'll be very quick because we all have to have some coffee. Just two things. I mean, a lot of points have been raised and Professor Blondieu has addressed them. Role of parties, improving the electoral process, compulsory voting, engaging all citizens, the role of lobbyists, and so on and so forth. A lot of these sort of points have been raised in the discussion. And all I would say personally is that deliberation is not a magic bullet. It's not a cure-all. Deliberation is not going to solve all of our problems with our political system. All I was trying to suggest in my presentation is that given the right circumstances, the crisis in Ireland was one circumstance, given the right conditions, the establishment of a constitutional convention with very clear rules about how it should operate, deliberation can have a role. But the role must be seen as limited. And my friend and colleague Ken Carty, who was involved in the British Columbia Citizens' Assembly, always used the example of an aeroplane. He says, you know, you wouldn't want to fly an aeroplane invented by Citizens' Assembly. Clearly, there are limitations for the role of things like this. So that's my first point. And my second point is getting to the issue about lobbyists, and a lot has been raised since you raised your point. I'll just give you the example of what we did in the case of the Constitutional Convention. We embraced the role of lobbyists. So it was made clear from the outset that once we were going to have a discussion about a topic, the experts would be the main presenters and the main people to answer questions. But lobbyists were also invited into the room to make their pitches, to make their presentations. So for the same-sex marriage weekend, we have a Catholic bishop up against the children of same-sex couples. So, you know, advocacy groups were included. But it was made extremely clear at the very first meeting of the convention that any lobbyist or any advocacy group who contacted a member of the convention to lobby them would never be allowed in the room. They would be banned from the process. And I can tell you that no lobbyist has ever approached a member of the convention, so they have played by the rules set by the convention. That's all I wanted to say. Thanks.
Thank you very much.
Okay. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous, d'abord à nos intervenants, encore une fois, David Farrell et Loïc Blondiot, pour la qualité des exposés et alors le débat. Merci à toutes et tous aussi d'avoir participé nombreux. Je profite de la neutralité de ma fonction pour relever que dans les propos tenus par mes collègues des différents partis, je note qu'il y a un partage quand même assez large du constat des limites de notre fonctionnement actuel et donc il y a même des ouvertures pour aller plus loin. Donc vous ne pouvez pas dire, chers collègues, que vous ne saviez pas. Je compte sur vous pour que les programmes électoraux que les uns et les autres vont préparer à l'occasion des prochaines élections puissent aller dans le sens de ce que nous avons pu entendre ce matin dans l'hémicycle. Alors, un petit mot aussi pour la suite du programme. Donc, nous avons un temps maintenant pour un repas. Des sandwichs sont proposés dans la cafétéria là-bas au bout. C'était prévu jusque 13h30, on peut peut-être déborder de 5-10 minutes. Donc je propose qu'on se retrouve pour les premiers à 13h30 devant l'entrée. Alors, pour l'atelier numéro 1, la démocratie participative en ligne, ça se passera ici même. Donc le rendez-vous est à 13h30 ici, devant l'entrée de l'hémicycle. Sur le palier, voilà, merci. À 13h30, ceux qui veulent participer donc à l'atelier démocratie en ligne, rendez-vous à 13h30 sur le palier. Pour celles et ceux qui se sont inscrits ou qui souhaitent participer au deuxième atelier, donc les expériences locales de démocratie participative, le rendez-vous à 13h30 à la cafétéria de l'hémicycle. Et de là, vous serez guidés vers les salles d'atelier et nous nous retrouverons pour la plénière plus tard. Merci encore à Jean-Benoît Pilet et à Mine Rechant d'avoir mené les échanges ce matin. Merci beaucoup.